Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 15. Églantine. Au moment où, après avoir frappé les trois coups à la porte et répondu par le mot de passe au « qui va là » du colonel Varoz, au moment, disons-nous, où le capitaine, toujours revêtu de son costume de moine, entra dans la salle basse, Marquis, Varoz et Raoul ne purent retenir une exclamation de joie qui réveilla brusquement le bon frère Malo. Le sommeil avait enlevé à ce dernier le sentiment de la situation. « Déjà les matines ? » murmura-t-il en se frottant les yeux. « Je crois qu'il n'est pas encore l'heure. Vous sonnez trop tôt, frère sacristain. » « Eh bien, Jean-Claude, » demanda vivement le curé marquis. Le capitaine, au lieu de répondre, mit un doigt sur ses lèvres en désignant Malo du regard. Geste et regard voulaient dire « Silence, ne m'interrogez pas devant le moine. » Puis il ajouta en s'adressant aux religieux « Je vous remercie de nouveau, mon bon frère. Vous venez de nous rendre à tous un bien grand service, qu'aucun de nous n'oubliera jamais, croyez-le. Reprenez maintenant votre froc. Retournez sans retard à l'hôtel de ville. » car votre supérieur pourrait s'étonner d'une trop longue absence. Et permettez-moi de vous donner un bon conseil, que vous ne vous repentirez point d'avoir suivi. Un conseil n'est jamais de refus, surtout quand il est bon, répondit le moine. Donnez-moi donc ce conseil, capitaine, et je vous promets d'en faire mon profit. Eh bien, mon frère, enfermez-vous si faire se peut sous de bonnes serrures et sous des verrous solides, et n'ayez point la curiosité dangereuse de venir assister ce matin sur la place Louis XI, au supplice de Pierre Prost. Suffit, capitaine. À bon entendeur, salut. Je ne mettrai dehors ni un pied ni un œil. Et si les choses tournent bien, comme je le souhaite, j'entonnerai de tout mon cœur le Godemus igitur. Frère Malo, tout en parlant, s'était réinstallé dans sa robe et sous son capuchon. Il prit congé de nos personnages et il quitta la maison de la Grand-Route. Aussitôt que la porte se fut refermée derrière lui, le curé marquis s'écria « Tu as vu ton oncle ?»« Oui, et d'après ce que je lui ai dit, il attend et il espère la délivrance. »« Qui ne lui manquera point ?» appuya Varoz. « Et ?» demanda le prêtre. « Ce secret qu'il devait te confier ?»« Nous intéresse tous, » répondit le capitaine, « et va nous mettre, je le crois, sur la voie d'une infernale trahison. »« Une trahison ?» répéta Marquis. Oui, car nous découvrirons enfin, sans doute, quel est le mauvais génie qui se cache sous le masque noir. Ah, murmura le curé au comble de l'étonnement. Ton oncle a parlé du masque noir? Et il m'en a dit assez pour me donner la certitude que cet homme, ce misérable, qui, dans quelque ténébreux intérêt, fait cause commune avec nos ennemis, est l'un des plus grands seigneurs de la province. Et ce seigneur, quel est-il? Nous le saurons. Curé marquis, nous le saurons, je vous le jure. As-tu des indices et des soupçons? Je n'ai pas de soupçons, mais j'ai des indices. Lesquels? Écoutez. Après avoir répété brièvement à ses auditeurs stupéfaits et épouvantés le récit de Pierre Prost et leur avoir montré le médaillon enrichi d'une églantine en diamant, l'accuson ajouta avec feu, en détachant une chaînette d'acier qui cerclait la forme de son chapeau, et en la suspendant à son cou comme un collier après y avoir fixé le médaillon, ce bijou brillera sur ma poitrine jusqu'à ce que j'aie découvert une trace de la malheureuse femme à laquelle il a appartenu, et je fouillerai s'il le faut tous les châteaux des trois bailliages jusqu'à ce que j'aie trouvé sur la voûte de l'un d'eux l'empreinte de la main sanglante. Alors, dit Raoul de Champdivert d'une voix profondément émue, allez au château de l'Aigle, vous y trouverez ce que vous cherchez. Quoi ? S'écrièrent à la fois le colonel Varoz et le curé marquis. « Vous accusez Antide de Montaigu ?»« Oui, » répondit Raoul, « et le capitaine accusant peut vous dire pourquoi je l'accuse. »« Raoul, » fit vivement l'accusant, « prenez garde. Cette nuit, vous m'avez raconté les odieux attentats commis contre le sire de Mirbel et contre sa fille, contre votre père et contre vous-même, et dont vous croyez que le seigneur du château de l'Aigle fut l'instigateur. » J'ai dû convenir avec vous que d'accablantes présomptions semblaient en effet peser sur la conduite passée de ce gentilhomme. Mais j'ai ajouté, et vous vous en souvenez certainement, qu'Antide de Montaigu était en ce moment l'une des plus fermes colonnes de nos libertés. Jadis, peut-être, la jalousie et la soif de la vengeance ont poussé le seigneur de l'aigle à des actions infâmes et dont il devra rendre un compte terrible à la justice de Dieu. Mais si le gentilhomme au masque noir d'il y a 20 ans était en titre de Montaigu, soyez certains, comme nous le sommes nous-mêmes, qu'aujourd'hui, sous un masque pareil, se cache un visage qui n'est pas le sien. J'en appelle au curé Marquis, j'en appelle au colonel Varose. « Ce que Jean-Claude pense et vient de dire, » répondit Varose, « je le pense et je l'aurais dit comme lui. »« Et j'ajoute, » répliqua le curé Marquis à son tour, « que la loyauté patriotique d'Antique de Montaigu et son dévouement à notre cause ne peuvent pas même être soupçonnés. »« Qu'avez-vous à répondre à cela, Raoul ?» demanda l'accusant. « Un seul mot, capitaine. Un mot que je vous ai déjà dit cette nuit. » Il y eut, après ces dernières paroles, un long silence. L'accusant le rompit en demandant « Quelle heure est-il ? » « 6 heures viennent de sonner, » répondit le prêtre. « Alors, » dit le capitaine, « il nous reste encore un peu de temps pour régler d'autres intérêts, qui, moins graves peut-être que ceux de la province, n'en sont pas moins sacrés. J'ai à vous parler d'Églantine. » Raoul de Champdiver comprit qu'il allait être question de lui. Il tressaillit, et un rouge pourpre couvrit pendant une seconde ses joues et monta jusqu'à son front. L'accusant fut le seul qui remarqua cette émotion. Il reprit, en s'adressant à Varose et à Marquis, « Croyez-vous qu'il soit nécessaire, croyez-vous qu'il soit utile de révéler en ce moment à Églantine le triste secret de sa naissance? Et puisque nous n'avons pas de famille à lui donner, croyez-vous qu'il soit bon et généreux de lui dire que ma famille n'est plus la sienne, et que l'homme qu'elle appelle son père et celui qu'elle nomme son cousin ne sont que des étrangers pour elle ?»« Non, 100 fois non !» s'écria le Marquis. « Cela n'est point nécessaire et ne serait pas généreux. Que la pauvre enfant ignore tout ce que nous venons d'apprendre, aussi longtemps qu'il sera possible de prolonger cette ignorance. C'est mon avis. »« C'est aussi le mien, » dit Varose. « À merveille, » continua l'accusant. « Voilà donc un point décidé. Mais il en est un second, et bien autrement important. Lequel ? Celui-ci. Dans peu d'instants, nous allons jouer sur un coup de dé une partie terrible, dont la vie de mon oncle et notre vie à tous les trois sont l'enjeu. Nous devons gagner. Je crois que nous gagnerons. J'en ai presque la certitude. Mais enfin, il faut tout prévoir. Et sur 100 chances, n'en eussions-nous qu'une seule contre nous, cette chance suffit pour nous faire perdre. Dans 2 heures, nous serons triomphants, ou dans 2 heures, nous serons morts. C'est là un hasard que nous affrontons souvent, ce me semble, interrompit Varose. « Je vous demande pardon, colonel, mais il est rare, au contraire, que nous nous exposions ainsi tous trois en même temps. Jamais, d'ailleurs, jusqu'à ce jour, le danger qui nous menace n'avait menacé en même temps Pierre Prost. Mais voici à quoi j'en veux venir. Si nous succombons dans la lutte, si ce soir aucun de nous n'est vivant, vous êtes-vous demandé ce que deviendrait, après nous, Églantine, restée seule au monde ?»« À diable !» murmura Varose, « je n'avais point pensé à cela. » « Si le malheur dont tu parles se réalise, » répondit Marquis après avoir réfléchi pendant un instant, « Églantine trouverait un asile sûr et respectable dans le couvent des Annonciades de Baume-les-Dames. »« Sans doute, mais elle ne pourrait y rester longtemps. »« Pourquoi ? Rien ne l'empêcherait de prendre le voile et de consacrer sa vie à Dieu. »« Et qui vous dit que ce soit là sa vocation ? » ?»« Églantine est une fille pieuse, et je ne lui crois point de pensée mondaine. » »« Églantine est un ange, je le sais bien. » s'écria le capitaine. « Et cependant, je vous affirme que la vie monastique n'est point du tout son fait. »« Te l'a-t-elle dit ?»« Jamais, mais j'ai de bonnes raisons pour en être certain. »« Puis-je connaître ces raisons ?»« Parfaitement. Églantine aime, et elle est aimée. »« Par toi, peut-être ?» s'écria le curé en attachant un long regard sur l'accusant. Le capitaine fit un effort violent pour ne rien laisser paraître du trouble que lui causait cette question, et il répondit « Non, curé Marquis, pas par moi. Est-ce que je suis libre, moi? Est-ce que je peux aimer autre chose que mes montagnards et la liberté? Eh bien alors, demanda le prêtre, par qui? Par un noble jeune homme, qui m'a déjà sauvé la vie, et qui veut partager avec la fille adoptive du paysan médecin son grand nom et sa grande fortune. Par le baron Raoul de Champdiver. Raoul, mon enfant, fit Varose, les yeux remplis de larmes d'attendrissement. « C'est bien ce que vous voulez faire ? C'est d'un grand cœur et d'une âme généreuse. C'est l'action du digne fils de Tristan. Raoul, dit à son tour le curé marquis en serrant la main du jeune homme, vous avez aimé l'orpheline, et votre récompense ne se fera pas attendre. Églantine vous apportera ce qui vaut mieux que tous les blasons et toutes les richesses de la terre. Elle a pour dot la beauté, la jeunesse et l'innocence. Elle vous donnera le bonheur. Raoul trouvait qu'en aimant la jeune fille et en la désirant pour femme, il faisait une chose toute simple et parfaitement naturelle. Et il avait raison. Il ne comprenait donc rien aux louanges et aux félicitations de Varros et de Marquis, et il en éprouvait de l'embarras et presque de l'humiliation. Mais en même temps, il ressentait une joie vive et profonde, car il devenait évident pour lui que nul obstacle ne viendrait entraver son union avec Églantine. Cette joie redoubla quand il entendit l'accusant dire au curé « Ne seriez-vous pas comme moi plus tranquille pour l'avenir si en partant pour affronter les dangereux hasards de la place Louis XI, vous laissiez notre enfant chéri sous la protection d'un fiancé, presque d'un époux, qui veillerait sur elle avec amour et la préserverait de tout danger ?»« Oui, répondit le curé marquis, et comme je lis dans ta pensée, je réponds à ce que tu n'as pas dit encore aussi bien qu'aux paroles que tu viens de prononcer. Va chercher Églantine. » L'accusant se dirigea vers la porte qui conduisait à la chambre voisine. Raoul de Champdivert, qui ne se doutait point que la jeune fille se trouvât dans cette maison même et séparée de lui seulement par une frêle cloison, reçut en plein cœur une commotion pareille à celle d'une décharge électrique. À deux reprises différentes, son visage passa de la plus extrême pâleur au rouge le plus cramoisi. Le vieux colonel sourit en le regardant, et le curé marquis lui-même admira la juvénile vivacité de ses impressions qui se reflétaient sur la charmante figure du gentilhomme comme sur la surface polie d'un miroir. « Églantine, dit le capitaine après avoir frappé légèrement contre la porte. « Cousin, répondit une voix douce et délicieusement timbrée, tu m'appelles ? Est-ce que tu dormais ? Non, comment pourrais-je dormir par une nuit pareille ? Alors, viens ici, ma chère enfant. Le curé marquis, le colonel et moi, nous avons à te parler. » Me voilà. La porte s'ouvrit et Églantine entra dans la chambre. C'était une svelte et ravissante jeune fille, d'une beauté tout à la fois patricienne et naïve, et qui portait avec une grâce infinie le pauvre et simple costume des femmes de la montagne. Sa jupe, d'une sorte de flanelle épaisse, rayée de rouge et de noir, ne descendait que jusqu'à ses chevilles, et laissait voir deux petits pieds minces et cambrés, dont l'élégance frappait tout d'abord, malgré les disgracieux chaussons de laine, à semelles épaisses qui les emprisonnaient. Les formes riches et finement découpées de son buste ressortaient sous un corsage de calmande brune. Un étroit bonnet de velours noir ne contenait qu'à grand-peine la soyeuse épaisseur de ses cheveux sombres, qui, divisés en deux lourdes nattes, tombaient presque jusqu'à ses talons. De grands yeux expressifs, d'un bleu transparent et profond, éclairaient un doux visage mélancolique, dont la pâleur était marbrée par des traces de larmes récentes. Un large cercle d'azur, se dessinant autour de ses paupières, témoignait en outre des préoccupations douloureuses de sa longue nuit d'insomnie. Au moment où la jeune fille pénétra dans la pièce qui touchait à sa chambre, son regard s'arrêta tout d'abord sur le curé marquis qui lui tendait la main. Et elle ne vit point Raoul, dont le cœur bondissait et qui se tenait à l'écart. « Mon enfant, lui dit le prêtre, nous avons à te donner une bonne nouvelle. » Les yeux d'Églantine étincelèrent. « Alors, s'écria-t-elle, il s'agit de mon père. » « Oui, répondit Marquis. Jean-Claude, tout à l'heure, caché sous un costume de moine, a pénétré dans son cachot. « Brave cousin, balbutia la jeune fille. Il a porté l'espérance au prisonnier, poursuivit le prêtre. Il lui a dit que dans quelques heures il serait libre. Il serait au milieu de nous, dans nos bras.
« Libre ? Dans nos bras ?» répéta presque tristement Églantine.
« Oh, mon Dieu, je n'ose y croire. Il me semble que c'est trop beau pour être possible. »
« Rien n'est impossible à ceux qui, comme nous, ont une volonté ferme, une résolution inébranlable, une absolue et aveugle confiance en Dieu qui doit protéger la bonne cause. Du fond du cœur, mon enfant, je te dis d'espérer, comme Jean-Claude l'a dit à ton père. »
« Je vous crois, balbutia la jeune fille.
Je veux vous croire. C'est si bon d'espérer. J'ai tant pleuré. J'ai tant souffert.
Maintenant, mon enfant, reprit le curé, il me reste à te donner une autre nouvelle. Et celle-là aussi, je le crois, est une bonne nouvelle. Églantine regarda le prêtre avec un candide étonnement.
Que voulez-vous dire ?
Demanda-t-elle.
Je ne vous comprends pas, mon père.
N'as-tu laissé là-bas, continua Marquis avec une douceur toute paternelle, n'as-tu laissé là-bas dans la forêt de Chaux aucune affection, aucun souvenir ? Églantine devint écarlate comme une grenade en fleurs. Elle baissa ses beaux yeux et elle ne répondit pas.
Chère cousine, dit en ce moment l'accusant, n'essaie pas de nous cacher les charmants secrets de ton cœur. Ils sont doux comme ton visage. Ils sont chastes comme ton âme. Tu aimes, nous le savons. Mais le bon ange qui veille sur toi n'a jamais dû rougir ni d'une de tes actions, ni d'une de tes pensées. Tu aimes, mais celui que tu as choisi est un noble cœur. Il est digne de toi.
Oh, mon cousin ! S'écria vivement Églantine, entraînée malgré elle par un insurmontable sentiment de curiosité féminine.
Qui donc t'a dit ?
Elle s'arrêta, sans avoir achevé. Regarde, répondit le capitaine. Et il poussa Raoul en avant.
Le médecin des pauvres, chapitre 16, la place Louis XI. Les hommes d'action de toutes les époques ont presque toujours eu dans le caractère un point de contact avec les auteurs dramatiques du XIXe siècle. Ce point de contact, c'est l'entente des coups de théâtre. Cette assertion peut sembler paradoxale à nos lecteurs, et cependant, nous ne serions point embarrassés de l'étayer par de nombreux exemples. C'était un coup de théâtre que se ménageait le capitaine lorsqu'il présentait ainsi brusquement le jeune baron de Champdivers à Églantine, qui poussa un cri charmant, balbutia le nom de Raoul et cacha dans ses deux petites mains son visage empourpré. Le capitaine les regardait tous deux en souriant. Le curé marquis appelait sur eux du fond de son âme la bénédiction de Dieu qui protège les chastes amours. Pharose tordait sa moustache blanche avec tous les symptômes d'une satisfaction indicible, et il se rappelait les années disparues de sa jeunesse et le lointain parfum de ses amours passés. « Chère Églantine bien-aimée, » murmura Raoul en ployant le genou devant la jeune fille. « Depuis le jour de notre séparation, je n'ai eu qu'une pensée, je n'ai eu qu'un désir, la pensée de me rapprocher de vous, le désir de vous retrouver. Et voilà votre cousin, votre frère, le capitaine Lacuzon, qui vous dira que je voulais mourir parce que je vous croyais morte. » Églantine releva timidement les yeux, non pas sur Raoul presque agenouillé, mais sur le curé marquis. « Comment ? » demanda-t-elle d'une voix presque indistincte. « Je puis l'aimer ? Lui ? Raoul ? Lui, un Français ?» Ce fut l'accusant qui répondit. « Ce n'est pas un Français, dit-il, c'est un franc-comtois, c'est un gentilhomme, c'est un des nôtres. Aime-le donc, cousine, aime-le bien, car je te jure qu'il le mérite. » Églantine tendit la main au capitaine, comme pour le remercier de ce qu'il venait de dire. « Oui, mon enfant, tu peux l'aimer, » fit à son tour le curé marquis. « Ne baisse pas les yeux, ne rougis pas, chère fille, car Raoul, à partir de cette heure, est ton fiancé, et tu seras bientôt sa femme devant Dieu et devant les hommes. Aime, puisque l'amour est une création céleste. Aime, puisque dans la nature, tout est amour, et puisque sans l'amour, le sublime architecte des mondes eût vu bientôt périr son œuvre infécondée. Aime, c'est la loi commune. Aime, c'est la loi divine. Aime, car tu es aimé. Et c'est dans l'amour saint et pur que tu inspires et que tu ressens que tu trouveras les joies de ta jeunesse et les souvenirs de toute ta vie. » Le curé marquis avait prononcé ces dernières paroles d'une voix doucement émue. Églantine et Raoul, poussés par un même mouvement, tombèrent à genoux devant lui en murmurant comme d'une seule voix. « Bénissez-nous, mon père !» Le prêtre appuya l'une de ses mains sur les cheveux noirs d'Églantine et l'autre sur la blonde chevelure de Raoul. « Soyez juste, soyez bon, soyez fort et soyez heureux, » leur dit-il. « Voilà ce que je demande à Dieu pour vous. » « Et maintenant, » s'écria l'accusant tandis que les deux jeunes gens se relevaient, «
Fasse le ciel que dans une heure Pierre Prost soit vivant et libre, car alors nous célébrerons demain de joyeuses noces, après les fiançailles un peu tristes de ce matin.
Dieu le voudra, répondirent Varros et Marquis.
Un faible rayon de lumière, terne et blafarde, commençait à tomber par la fenêtre à petits carreaux et faisait pâlir la lueur de la lampe près de mourir.
L'heure approche, dit le colonel en bouclant autour de sa taille le ceinturon de sa forte épée.
Nous serons prêts, répondit l'accusant.
Il entr'ouvrit la porte qui donnait sur la rue et il jeta un rapide coup d'œil au dehors.
Une foule de gens du peuple et de montagnards passait devant cette porte, allant tous du même côté, car ils se rendaient tous à la place Louis XI.
Le capitaine fit entendre ce sifflement faible et doux que nous connaissons déjà.
Presque aussitôt, un homme sortit de la foule et entra dans la maison.
C'était Garbas, le trompette des corps francs montagnards, et le bras droit du capitaine, ainsi que nous l'avons entendu dire à l'Espinassou lui-même.
« Tu connais la maison de pied de fer ?» lui demanda l'accusant.
« Tout au bout de la descente de la Poya, juste en face de la fontaine. Oui, capitaine.
Combien te faut-il de temps pour aller à cette maison et revenir ?»«
Une demi-heure au plus. Tu vas y conduire ce gentilhomme et la nièce du curé marquis, et tu viendras ensuite me rejoindre. »
En parlant ainsi, l'accusant avait désigné Églantine et Raoul.
« Oui, capitaine, répondit Garbas. »
Raoul entraîna l'accusant dans un des angles de la pièce et lui dit avec vivacité et d'un ton de reproche.
« Comment, capitaine, vous voulez m'éloigner de vous au moment où l'on va se battre? Suis-je donc une femme ou suis-je un enfant?
Je réclame ma part du danger, et me la refuser serait me faire une mortelle injure que je ne pardonnerais pas même à mon frère.
« Enfant, répondit l'accusant, vous oubliez que je vous ai vu à l'œuvre. Et vous supposez peut-être que je doute de votre courage ?
Non, car vous ne m'auriez pas tendu la main, si vous me croyez un lâche. Mais je serais jaloux des périls que vous allez courir si je ne les partageais pas.
Ainsi, vous voulez nous accompagner à la place Louis XI et combattre auprès de nous ?
Je le demande, et vous ne pouvez me le refuser.
Soit, que votre volonté s'accomplisse donc, et non la mienne, dit l'accusant avec amertume.
Venez, et si nous succombons et que vous succombiez avec nous, Églantine ne vous aura retrouvé que pour vous perdre.
Églantine, seule au monde désormais, restera exposée sans défense aux outrages d'une soldatesque ivre et féroce, déchaînée dans la ville conquise.
Mais que vous importe la pauvre fille? Vous aurez sauvegardé votre orgueil irritable. Vous aurez satisfait votre ardeur batailleuse.
Venez, baron de Champdiver, et que Dieu veille sur la triste abandonnée.
Raoul baissa la tête, et pendant une seconde, son front se plissa. Et ses lèvres se contractèrent, irrécusable indice d'une violente lutte intérieure.
« Capitaine, dit-il enfin, vous avez raison, je le reconnais. Allez sauver le père, moi je garderai la fille. »«
Bien, Raoul, bien, je vous retrouve, s'écria l'accusant. C'est parfois un grand acte de courage, n'en doutez pas, que de laisser son épée au fourreau. »
Églantine, après avoir présenté son front aux trois défenseurs de son père, s'enveloppa dans une longue et ample pelisse brune, pareille à celle que les paysannes franc-comtoises portent encore aujourd'hui pendant les froids de l'hiver. Raoul cacha ses armes et une partie de son visage sous les plis de son manteau. Puis les deux jeunes gens suivirent Garbas, qui les conduisait à la maison de pied de fer, tandis que l'accusant, Varros et le curé marquis s'apprêtaient à gagner la place Louis XI. La place Louis XI, au XVIIe siècle, n'était autre chose que l'immense cour intérieure autour de laquelle se dressaient les vastes et magnifiques bâtiments de l'abbaye de Saint-Claude, remarquables par la richesse de leur architecture et par la régularité de leur façade. La principale entrée de la cathédrale donnait sur cette cour, ce qui permettait aux moines de se rendre à l'église à couvert en suivant les cloîtres voûtés qui régnaient autour du couvent et établissaient de faciles communications entre tous les corps de logis. L'entrée donnant sur la grand-rue de la ville était défendue par une porte épaisse et solide, confiée à la garde vigilante d'un frère portier. Du côté opposé, existait une seconde entrée, et par conséquent, une seconde porte. Mais cette porte restait habituellement fermée, et ne s'ouvrait que dans de certaines occasions solennelles, telles par exemple que l'époque où les tenanciers de l'abbaye venaient acquitter leur dîme. Le nombre de ces tenanciers était tel que pour en faciliter l'écoulement, il fallait leur ménager une entrée et une sortie.
Depuis que les Suédois, commandés par le comte de Guébriant, s'étaient emparés de la ville et avaient chassé du monastère les religieux qui l'occupaient paisiblement depuis tant de siècles, il ne pouvait plus être question ni de discipline intérieure, ni de frères portiers. Les portes, arrachées de leurs gonds et brisées à coups de hache, attestaient que ce dernier emploi resterait pendant bien longtemps une sinécure. L'état-major de l'armée suédoise s'était installé dans le couvent, et le comte de Guébriant avait pris possession de l'appartement de l'abbé lui-même. Aussi, et dans le but de permettre à ce gentilhomme d'assister sans se déranger au supplice de Pierre Prost, la place Louis XI avait-elle été choisie pour le théâtre de l'exécution. Nos lecteurs se demandent sans doute pourquoi ce nom d'un roi français avait été octroyé à l'une des places d'une ville ennemie de la France. Nous allons leur donner en peu de lignes une explication à cet égard. On sait que lorsque Louis, devenu depuis Louis XI, n'avait encore que le titre de dauphin, des conspirations, dont le but était de le mettre sur le trône de son père, le roi Charles VII, éclataient de temps à autre. Relégué dans son gouvernement du Dauphiné à la suite de l'une de ses conspirations, le dauphin apprit que son père, voulant en finir une bonne fois pour toutes avec ses ambitions prématurées, envoyait contre lui un corps d'armée commandé par Antoine de Chabannes, comte de Dammartin. La chronique martinienne nous apprend que le dauphin, se sentant impuissant pour la résistance, demanda à la fuite la liberté et la vie peut-être. Certain de trouver asile et bon accueil auprès de son parent le duc de Bourgogne, père de ce comte de Charolais qui fut plus tard Charles le Téméraire, il gagna les états de ce prince, et chemin faisant, il s'arrêta pendant quelques jours à Saint-Claude qui se trouvait sur son passage. Sans doute à cette époque, le dauphin de France ne faisait point encore profession de cette parcimonie peu royale qui devint plus tard un des traits distinctifs de son caractère. Toujours est-il qu'il déposa sur la chasse vénérée du grand Saint-Claude d'assez riches offrandes pour que les moines franc-comtois voulussent éterniser le souvenir de la visite de leur hôte illustre en donnant son nom à la plus belle place de leur ville lorsque cet hôte fut devenu roi. De Saint-Claude, le dauphin se rendit à Bruxelles, où la femme et la belle-fille de Philippe le Bon, la duchesse Isabelle et Madame de Charolais, lui firent une réception digne de son rang de fils de France. Un peu après, le duc de Bourgogne lui donna pour résidence le château de Genappe, situé sur la rivière la Dyle, à quelques kilomètres de Bruxelles. C'est là que le futur Louis XI, le roi dévot sans cesse agenouillé devant les figurines de plomb et d'étain qu'il portait autour de la forme de son bonnet et qui représentait des saints et des Notre-Dame, c'est là, disons-nous, qu'il charma ses loisirs par la composition de ce recueil de contes graveleux et libertins, devenu célèbre sous le titre des « 100 nouvelles nouvelles » et publié plus tard par Antoine de La Salle. Telle que nous venons de la décrire, la place Louis XI, une heure avant le moment fixé pour l'exécution de Pierre Prost, était encombrée d'une foule composée de deux éléments bien distincts. Ici, des soldats suédois, des gris, des français, des étrangers enfin et des ennemis, agressifs, bruyants, tapageurs, applaudissant d'avance au supplice et s'extasiant en connaisseurs sur la façon artistique dont le bûcher était disposé. Là, au contraire, les habitants de la ville et les montagnards arrivaient de tous côtés au point du jour, car le sire de Guébriant, sûr de sa force, avait donné l'ordre que les portes de Saint-Claude fussent ouvertes à tout venant dès 6 heures du matin. Citadins et paysans formaient une population silencieuse, morne, lugubre. Ils allaient voir mourir un des leurs, iniquement condamné. Ils pleuraient sur lui, et ils tremblaient eux-mêmes, car en ces temps de désordre, où l'arbitraire était la seule loi et la seule justice, personne ne pouvait être certain de ne point partager le lendemain le sort de Pierre Prost. 8 heures sonnèrent à la cathédrale. Au premier coup du beffroi, la foule ondula comme les épis d'un champ de blé, fouettés par une brise soudaine. Au dernier coup, un roulement de tambour se fit entendre, puis une sonnerie de trompette. Le cortège se mettait en marche. L'une des façades de ces bâtiments quadrilatères qui se dressaient autour de la place Louis XI avait à son point central une porte monumentale à laquelle on arrivait par un large escalier de 4 marches. Au-dessus de cette porte, que timbrait à son couronnement le blason de l'abbaye, un balcon de pierre,
soutenues par des gargouilles en forme d'animaux fantastiques, étalait ses colonnettes grêles et ses trèfles découpés à jour comme une dentelle marmoréenne. Du haut de ce balcon, on pouvait embrasser d'un seul regard la place tout entière. C'est par la porte dont nous venons de parler et qui se trouvait sous le balcon que débouchait le cortège conduisant au supplice le médecin des pauvres. Au moment où les tambours et les trompettes paraissaient sur la marche la plus élevée de l'escalier, précédant les gardes du condamné et faisant retentir leurs funèbres fanfares, un détachement de soldats suédois, le mousquet sur l'épaule, prit position autour du bûcher qui occupait le centre de la place, refoula brutalement les curieux et se rangea en double haie depuis le bûcher jusqu'à la porte, laissant ainsi libre et vide un large espace pour le passage des gardes et des bourreaux. Tandis que se faisait le brusque reflux de la populace, chassé en arrière par des coups de crosse libéralement distribués, un mouvement en sens inverse avait lieu. Mouvement combiné et exécuté avec une habileté si grande qu'il demeura complètement inaperçu par les soldats eux-mêmes. Une certaine quantité d'hommes jeunes et vigoureux, revêtus du costume de paysans de la montagne, et qui, depuis le matin, n'avaient point quitté la place Louis XI, mais sans chercher à se rapprocher du bûcher, laissèrent reculer autour d'eux les citadins malmenés par les soldats du comte de Guébriant, et se glissèrent un à un, doucement et avec une prudente lenteur, à la place des fuyards, de façon à ce que deux ou trois d'entre eux se trouvassent immédiatement derrière chaque Suédois, quand le cercle et la haie furent formés et quand le lieutenant du peloton commanda de mettre l'arme au bras. Tous ces montagnards offraient des figures honnêtes et placides. Aucune intention hostile ne se lisait dans leur calme attitude, ni dans leur regard que la curiosité seule semblait animer. Une demi-douzaine de bourgeois de Saint-Claude, mieux avisés que les autres, ayant reconnu Garbas et Piedefer parmi ces tranquilles spectateurs, se dirent tout bas les uns aux autres. « Il va se passer ici quelque chose de terrible. » Quittèrent prudemment la place Louis XI, regagnèrent leur maison et résolurent d'y attendre paisiblement et sans danger les événements. Cependant, le cortège avançait avec une lenteur calculée, car on voulait laisser à tous le temps de voir et de bien voir. Pierre Prost, la tête nue et les mains attachées derrière le dos, marchait d'un pas ferme entre deux détachements de soldats commandés par le géant Lespinassou. À la droite et à la gauche du condamné se tenaient les exécuteurs, vêtus de rouge et portant à la main des torches enflammées. La contenance et l'allure du médecin des pauvres étaient fières et assurées. Il marchait la tête haute. Son regard se promenait sur la foule avec une expression tranquille. Il avait plutôt l'air d'un vainqueur qui marche au triomphe que d'un condamné qui marche à la mort. Sans doute Pierre Prost avait confiance dans le courage de l'accusant et dans la parole donnée. Sans doute il espérait la délivrance promise. Mais il savait aussi que l'entreprise, folle en apparence qu'on allait tenter, pouvait échouer. Et c'est au moins à l'espoir du salut qu'il devait sa force et sa résignation, qu'au calme profond de sa conscience pure et qu'à la volonté ferme de montrer à ses amis et à ses ennemis comment injuste c'est mourir. La foule, silencieuse et atterrée, regardait défiler le cortège avec une muette épouvante. Les Suédois eux-mêmes se taisaient et ne trouvaient plus en eux l'infâme courage d'insulter à cette fermeté héroïque. Il ne restait à Pierre Prost que quelques pas à faire pour atteindre la première marche du bûcher. Soudain, une immense clameur s'éleva de toutes parts, et l'attention, ardemment fixée jusqu'alors sur le condamné, s'en détourna avec la promptitude de l'éclair. C'est que de nouveaux personnages venaient de paraître sur le balcon vide jusqu'alors, et que l'un d'eux était cet homme étrange, énigme vivante et terrible, autour duquel se concentrait depuis si longtemps la curiosité ardente et inassouvie des populations franc-comtoises. Le grand seigneur mystérieux, le gentilhomme au masque noir, se tenait debout et enveloppé dans les plis de son manteau, à côté du comte de Guébriant. « Le masque noir ! Le masque noir !» répétaient mille voix à la fois, tandis que la foule, entassée sur la place, désignait du regard et du geste le sinistre inconnu, et que de tous les yeux fixés sur lui jaillissaient des éclairs de haine et de vengeance. Impassible sous le feu de ses regards, le masque noir, les bras croisés sur sa poitrine, gardait son attitude hautaine et dédaigneuse. Que lui importaient ces clameurs ?
Que lui importait la haine de cette multitude impuissante? Il était venu là pour s'assurer par ses propres yeux que rien ne lui enlèverait sa victime. Il était venu pour contempler les flammes grandissantes du bûcher où Pierre Prost devait payer de sa vie le crime involontaire de savoir un secret funeste. Dans quelques minutes, il allait être satisfait. Dans quelques minutes, le médecin des pauvres n'existerait plus. Cela et cela seulement intéressait le masque noir. Il n'avait nul souci du reste. Comme tout le monde, comme les gardes et comme les bourreaux, Pierre Prost leva les yeux vers le balcon que l'unanime clameur désignait. Et lui aussi vit le masque noir. Un sourire méprisant contracta sa lèvre. Il fit une halte d'une seconde et se tournant vers son terrible et presque fantastique ennemi, il lui cria « Prends garde de triompher trop vite. Le secret de la nuit du 17 janvier 1620 ne meurt pas avec moi. » Mais le bruit de ces mots se perdit dans les rumeurs populaires, et pas une seule des paroles prononcées par le condamné n'arriva jusqu'au masque noir. Pierre Prost se remit en marche. La diversion dont nous venons de raconter les rapides incidents fut d'ailleurs de courte durée. Le comte de Guébriant fit un signe, les tambours recommencèrent à battre et les trompettes à sonner. Pierre Prost venait d'atteindre les premières marches du bûcher et il les gravissait d'un pas ferme, sans être soutenu par les bourreaux qui l'escortaient.